Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle!
Les aviateurs de la Grande Guerre.
Taisez-vous, Vogel!
Oh, Mully, ce qui se passe!
Les Boches ont capitulé!
Guynemer s'est fait descendre. Hier. C'est officiel.
J'ai volé avec lui. C'était le meilleur.
Les mémoires de guerre du général de Gaulle s'ouvrent à la fois par le rappel des grandes réalisations françaises et l'évocation des aviateurs de la guerre de 14. C'est bien la preuve que ceux-ci sont devenus indispensables à la geste française. Au premier rang d'entre eux se tient Georges Guynemer, qui le 11 septembre 1917 décolla sur son vieux Charles de l'aéroport de Saint-Paul-sur-Mer pour ne pas revenir. Le titre d'As des As, fondé sur le nombre de victoires homologuées, revint ensuite à Ningesser et à René Fonck, mais Guynemer a toujours gardé quelque chose en plus. L'extrême jeunesse, la beauté, certains allèrent jusqu'à lui prêter la même virginité qu'à Jeanne d'Arc. Il était l'emblème derrière lequel l'avion militaire pouvait décoller. L'aviation militaire avait été organisée dès 1912, mais elle n'était encore que la cinquième arme de l'armée de terre. Elle avait besoin de héros pour arracher un statut à part. De même, l'admiration du public avait entouré les aviateurs bien avant 14, mais la guerre l'a transformée. À mesure qu'elle devenait plus massive, plus impersonnelle, les aviateurs permettaient d'y ressusciter les figures anciennes et bien connues de la chevalerie, du duel, du tournoi. Avec eux, l'humanité, qui avait des raisons de désespérer d'elle-même, retrouvait ses lettres de noblesse. Les aviateurs constituaient d'ailleurs une manière d'aristocratie. La vie chez eux était assez libre. Les fantassins, fixés dans la boue, le nez dépassant à peine des tranchées, ne s'y trompaient pas. Quand leur langue fourchait, ils traitaient les aviateurs de fainéants. C'était négliger que le pourcentage des morts chez ceux-ci battait tous les records, simplement... Ils avaient le privilège de mourir autrement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Damien Coulon, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui commence une thèse sur les aviateurs de la Grande Guerre. Au fond, vous avez l'âge de Guynemer. Je ne sais pas si c'est pour cela que les jeunes aviateurs de la guerre de 14 vous fascinent. Ou bien c'est l'avion qui vous intéresse ?
Non, c'est davantage les hommes qui sont dans ces avions et qui vont fasciner les lecteurs, et donc c'est à eux que je m'intéresse particulièrement.
C'est-à-dire aux esprits humains qui conduisent et animent ces machines de toile et de bois.
Voilà, et qui vont participer à une guerre tout à fait nouvelle, celle des airs, et qui va également changer leur vie, puisque de cette expérience particulière d'aviateur va découler des parcours tout à fait singuliers.
Alors, des parcours très singuliers, on évoquera évidemment le lendemain du 11 septembre, où Guynemer est fêté dans chacune des bases de l'armée de mer, l'As des As, d'avant sa disparition, d'avant septembre 1917. Puis on parlera de l'As des As, sur lequel vous avez déjà fait beaucoup de travaux, qui s'appelle René Fonck. Au fond, votre vocation, elle est née parce que, jeune adolescent à Gérardmer, vous alliez entre Gérardmer et Saint-Dié, et vous voyiez un monument dédié à Fonck.
C'est ça, oui, des petits panneaux à l'entrée du village, de son village natal de Saulcy-sur-Meurthe, la terre natale de l'As des As. Ça m'a
beaucoup
intrigué. Parce
qu'il passait pour un Alsacien, mais enfin, il était Lorrain et Vosgien.
Voilà, ses grands-parents étaient des optants alsaciens, mais il était né dans les Vosges.
Alors, on va évoquer quand même la fascination que les aviateurs exerçaient déjà dès avant la guerre de 1914. On peut penser au nom de Santos Dumont.
Mmh, tout à fait, oui. Un des vraiment pionniers de l'aviation, hein, le franco-brésilien, qui est le premier homme à voler dans un avion. Ça dure une quarantaine de secondes, mais c'est quand même le premier vol. Et c'est un de ces pionniers qui entretiennent ce mythe de l'aviateur, et même qui donne naissance à ce mythe de l'aviateur, au début des années 1900, et vont donner hein, cette image de viveur et de fou de l'air.
Les hommes oiseaux qui fascinent les mouettes. Là, je reprends le vocabulaire d'un film, ces fous volants dans leur drôle de machine dont on a extrait cette séquence.
Oh, Richard, vous ne voulez pas m'emmener en avion ?
Non, pas aujourd'hui. Non, il y a beaucoup trop de vent.
Pour vous, il n'y a pourtant pas trop de vent.
Donnez-nous un coup de main, voulez-vous ?
Oh, Richard, regardez cette mouette. Elle peut aller où elle veut dans les airs. Et quand elle le veut, quelle chance vous avez !
Oui, je le sais.
Ah, que j'aimerais planer dans les airs et regarder notre monde de haut. Je crois que je ferais une très jolie mouette.
Alors, ça se passe sur un aéroclub.
Oui, effectivement.
Qui est l'équivalent d'une piste de danse. Enfin, c'est un terrain de flirt.
C'est un terrain d'aviation, effectivement, qui sont investis par les aéroclubs, constitués par des membres de la bonne société, voire de l'aristocratie, intéressés par la mécanique moderne. À cette époque, c'est l'automobile et l'aviation, donc, qui permet de s'envoler, de voir le monde d'en haut, d'une autre perspective, et d'entretenir cette idée romantique du vol.
C'était souvent, des romantiques, je veux bien, mais des sportifs qui pratiquaient, à côté de l'aviation, un autre sport.
Oui, souvent, effectivement, ce sont des jeunes gens intéressés par le sport qui vont, effectivement, se lancer dans l'aviation. Mais ça, à cette époque, hein, les avions, c'est pas ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Hein, c'est des petits appareils en bois qui volent difficilement et il faut donc avoir une bonne condition physique.
C'est froid.
Il fait froid. Quand vous montez en altitude, très rapidement, vous perdez plusieurs degrés. Donc, il faut pouvoir tenir et avoir l'endurance pour tenir dans les airs.
J'ai cité François Bayrou parce qu'il a souvent très bien parlé de l'aéroclub de Pau. L'aéroclub de Pau, on y trouvait les amateurs de fox hunting, de chasse aux renards. Ils fréquentaient le soir le cercle anglais. Et puis, c'était les pionniers du polo qui commençait sur la côte atlantique. Et puis l'aéroclub de Pau était extrêmement réputé pour ses champions. Et François Bayrou dit « Quand l'ordre de mobilisation est arrivé, ils ont renvoyé leurs chevaux, ils les ont donnés en pension, ils ont tué les chiens des meutes de chasse aux renards, ils ont mis leurs vareuses. » Et ils ont serré leur ceinture. Oui, mais ils se retrouvaient en même temps, souvent, dans des escadrilles où d'autres comparables à eux, du même milieu, étaient membres, presque comme d'un club.
Alors effectivement, mais bon, il faut aussi prendre en considération que les premiers pilotes vont aussi le plus souvent venir de la cavalerie. Vous avez la cavalerie qui devient très vite obsolète, et donc ces pilotes qui vont... donc la cavalerie, c'était quelque chose d'assez élitiste à l'époque, hein, il fallait quand même avoir une certaine extraction. Ces cavaliers vont être rapidement reversés dans l'aviation, qui va aussi contribuer à cet entre-soi, tout en gardant à l'esprit hein, que le sport au début du XXe siècle, c'est quand même quelque chose, un privilège des classes qui ont le temps d'avoir du loisir.
Enfin, Fonck, c'est comme vous, c'est un petit Vosgien, il ne fait pas partie de ces classes privilégiées.
Non, effectivement, c'est un phénomène singulier, puisque il ne commence d'ailleurs pas dans l'aviation, il commence dans le génie, et n'intégrera l'aviation véritablement qu'à partir de l'année 1916, la chasse en 17, au moment où la guerre aérienne se massifie, et alors s'ouvre à d'autres cercles, y compris ce petit ajusteur mécanicien Vosgien.
Alors, à quoi ça sert l'avion ? Voici une séquence du Temps des As, un feuilleton à rebondissement qui a longtemps occupé les soirées de la télévision française.
J'ai des difficultés avec l'état-major. Tous des vieilles barbes. Mais pour eux, un avion doit servir à observer. Selon moi, il devrait combattre. Il combattra. Ces duels en plein ciel, au pistolet, à la carabine, c'est ridicule, on n'est plus au Moyen-Âge. Alors, ce qu'il nous faut, c'est une bonne mitrailleuse Hotchkiss sur le capot avant. Et l'hélice, on tire entre les pales. Ça fait des semaines que Davos travaille là-dessus avec Saunier à Villacoublay.
Ils ont réussi à synchroniser le rythme du moteur et la cadence de tir ?
Pas encore, mais on y arrivera. Pour l'instant, on se contentera d'une hélice blindée. Le blindage en cornière rejette une balle sur trois ou sur deux, selon les cas. Mais celles qui passent vont mouches. Et on va faire mal.
Le temps des As, 1982, Claude Boissel. Alors, observer, c'était quand même la première mission de l'aviation militaire telle qu'elle avait été conçue par le plan de 1912. L'aviation était la cinquième arme de l'armée de terre et elle était dévolue à des tâches de reconnaissance, de surveillance.
Alors, elle se développe en tant que cinquième arme, effectivement, avec cette première guerre, puisque on commence effectivement avec cette aviation d'observation qui va donc permettre d'observer les lignes ennemies, de repérer où se trouvent les troupes. Au fur et à mesure, alors qu'on croise un avion ennemi, bon, bah, on a une carabine dans le cockpit, on va tenter de lui tirer dessus. Et puis on se rend compte que c'est quelque chose qui peut être particulièrement utile avec le temps. Et alors, effectivement, comme votre extrait l'indiquait, on va avoir la mise au point progressive de ces mitrailleuses à l'avant.
Les avions d'observation, comme les aviations, comme les avions qui bombardent, ils sont deux. Un pilote, un observateur, un pilote, un tireur.
Effectivement, hein, avec dans le bombardement, la personne qui va pouvoir larguer les obus hein, par-dessus les lignes ennemies. Et l'observation, effectivement, vous avez le pilote à l'avant et l'observateur derrière qui va permettre de repérer ces informations, ce qui va supposer une certaine compétence technique pour pouvoir indiquer sur des cartes.
On parle rarement du rôle des avions qui parfois passent les lignes ennemies pour envoyer des messages, voire déposer des espions ou des missionnaires. C'est arrivé à Guynemer de faire ça. Missionnaire entre guillemets, bien sûr.
Alors effectivement, oui, ça c'est intervenu à certains moments, mais ça paraît relativement marginal dans la guerre aérienne.
Tandis que la chasse, elle a le don de provoquer l'admiration du public et d'être mise en scène par les journaux.
Alors effectivement, mais c'est particulièrement vrai à partir de 1916, puisque l'offensive de Verdun et les importantes pertes subies l'année précédente hein, vont inciter le GQG, le grand quartier général, à communiquer le nom des aviateurs. Et à offrir ainsi une publicité tout à fait nouvelle à ce qui va devenir des héros de cette première guerre.
Alors là, on calcule, mettons-nous à la place d'un journaliste, le nombre de victoires que chacun a remportées, à condition qu'elles soient homologuées.
C'est ça, il y a un processus d'homologation qui est mis en place pour pouvoir valider la victoire et donc ne pas seulement se fier sur la bonne parole du pilote. Et donc, du côté français, on va exiger des témoignages, deux témoignages de la victoire qui a eu lieu et que l'avion tombe dans les lignes du côté français.
Et le titre d'As des As, il est quand même plutôt fabriqué par le public. C'est tout de même pas le grand quartier général. S'il distribue des titres, Guynemer va devenir capitaine alors qu'il était soldat deux ans avant, des médailles et des palmes sur les médailles. Le grand quartier général ne donne pas le titre d'As des As.
Non, effectivement, ça c'est pas tout à fait le public, c'est surtout la presse qui va le donner. Et c'est pas un hasard si plusieurs de ces journalistes sont d'anciens journalistes sportifs. Il y a la figure de Jacques Mortane qui est rédacteur en chef de La Guerre aérienne illustrée.
La Guerre aérienne illustrée, c'est un journal régulier?
Oui, c'est un journal civil, hein, donc qui va être principalement destiné aux civils et qui va raconter, mettre en mots cette guerre aérienne. Et faire du coup le décompte de ses victoires également et établir véritablement un palmarès avec au sommet effectivement ce titre d'As des As.
Mais pourquoi Guynemer est-il si populaire? Alors il est l'As des As, 53 victoires homologuées au moment où il va disparaître le 11 septembre 17, mais il y en a d'autres aussi qui auraient pu exciter les intérêts.
Oui, mais Guynemer, c'est le premier véritablement à susciter cet intérêt. Et au moment de Verdun, il est en concurrence, entre guillemets, avec Jean Navarre, qui est un peu trop turbulent au goût de l'état-major, et avec Charles Ningesser, qui est un casse-cou et qui correspond moins à ce qu'on pourrait attendre d'un bon soldat. Georges Guynemer, en revanche, vous l'avez dit, c'est une figure angélique, un jeune homme qui s'est engagé volontairement, qui a même fait jouer ses relations pour intégrer alors qu'il avait été inapte, et qui va donc offrir un modèle tout à fait exceptionnel à la France.
parce qu'on cache aussi un certain nombre de ses incartades. Il lui arrive de faire des excès de vitesse en voiture à Paris et il n'a pas le permis de conduire. Mais ça, on ne le dit pas.
Non, effectivement. Alors, il y a, et c'est toute l'ambiguïté du rapport de la presse avec l'aviation, la censure, évidemment, existe, mais les journalistes, les journaux sont assez enclins à faire également cette promotion de l'aviation. Et c'est très intéressant de voir que la passion de ces journalistes pour l'aviation va impliquer une sorte d'autocensure qui va faire qu'on ne raconte pas tout et qu'on va passer sous silence certains pans moins saillants de la personnalité de Guinmer.
Au fond, ce qui vous intéresse le plus, Damien Coulon, c'est pas tant l'avion que le regard qu'en bas, on porte vers l'avion.
Tout à fait, et les mythes que ça implique chez le grand public.
Ô Guinmer, petit oiseau de France, qui te joies de l'aigle envahisseur, ton incroyable et féerique existence devait finir comme un conte enchanteur. Tu nous quittas, la légende en atteste, ainsi que Dieu dans un embrasement, et te fixa en la voûte céleste, telle une étoile au sein du firmament. Guinmer, du haut de ces lieux où montent nos aviateurs, regarde comme ils continuent la tradition des grands cœurs. Tous ils ont ta foi, ta vaillance, ils ont ton mépris du danger. Guinmer, sois leur providence et daigne nous les protéger.
Chanson de l'autre guerre, 1939, sur Guinmer. On parle aujourd'hui des aviateurs de la Grande Guerre. En 1973, beaucoup plus tard, Jacques Martin a émis l'idée de faire une opérette sur Guinmer. Et puis il a remis le couvert un peu plus tard, imaginant cette publicité pour un café Guinmer.
Guinmer, figure légendaire de l'aviation française, le héros valeureux de la guerre de 14-18, l'homme aux 53 victoires aériennes. Guinmer, ce héros était aussi un homme au goût simple, dont le grand plaisir était chaque matin de préparer son petit déjeuner. Regardez-le chez lui, c'est avec amour qu'il prépare son doux nectar du lever du jour. Il le hume avec délice.
Quel arôme! Quel parfum!
Guinmer, c'est père, mon café! Guinmer, c'est père, mon café!
Café Guinmer pour s'envoyer en l'air!
Damien Coulon est notre invité. Vous ne connaissiez pas cette publicité?
Non, je la découvre. Mais...
1993, ouais, 20 ans après l'idée de l'opérette. C'est un homme comme les autres. Il ne faut pas rigoler avec cette idée. Elle ne passe pas dans un certain nombre de milieux. Le général Stellin, en 1973, au moment de l'idée d'opérette de Jacques Martin, c'est le député du 16e arrondissement, c'est un général d'aviation, demande qu'après l'affront fait par Jacques Martin, une émission à l'ORTF soit consacrée à Guinmer. Mais c'est quasiment fait aujourd'hui. Enfin, on va aussi parler d'autres personnages comme celui de Fonck. Ce héros était aussi un homme. Non, c'était pas un homme, Guinmer. Il y a tout un débat, par exemple, sur ses relations avec Yvonne Printemps.
Oui, effectivement. Est-ce que Georges Guinmer a eu une relation avec Yvonne Printemps,
grande chanteuse de l'époque.
Voilà, c'est ça, très célèbre.
Oui. Et, très proche de Sacha Guitry.
Exactement, elle va se marier avec lui d'ailleurs après.
Guinmer devait être vierge en fait.
Bah, pour être tout à fait pur, il aurait dû être vierge. Si c'est un archange, il est vierge. Et c'est là que se situe le problème.
Jean-Marc Fineau publie chez Fayard un livre fort intéressant sur Guinmer et ce livre est préfacé par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et Jean-Marc Fineau a du mal à admettre que Guinmer ait pu avoir des relations féminines, même si pendant la guerre, inévitablement, son cercle de relations féminines s'est élargi au-delà de ses deux sœurs, dit-il. Je voudrais que vous nous parliez de la mort de Guinmer. Donc c'est le 11 septembre. Est-ce que les Allemands ont rendu les honneurs militaires et est-ce que les Allemands ont enterré Guinmer? Alors ça, c'est toute une polémique.
Oui, également. Bon, alors sur ce sujet, il y a encore débat. Personnellement, je ne serais pas encore véritablement positionné. En revanche, c'est les Allemands qui portent la nouvelle dans les lignes françaises et qui vont ensuite médiatiser cette mort, puisque évidemment, avoir abattu le héros d'en face, c'est un facteur de prestige, à la fois pour Kurt Weissmann qui l'a tué, mais aussi pour toute l'armée allemande qui a réussi à terrasser le formidable Guynemer.
Mais quand Guynemer évoquait ses victoires, il disait toujours « quick ». Et il ne parlait pas des Allemands, il parlait des Boches.
Oui, et alors c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans les témoignages des pilotes. La plupart sont décrits comme d'invincibles tueurs de Boches. Et René Funk, par exemple, parle de son plaisir à avoir tué tant d'ennemis et qu'il le refera encore avec plaisir. En revanche, après la guerre, un son de cloche un peu différent apparaît alors que la censure se détend un petit peu. Et dans Mes combats, le livre de souvenirs de René Funk, on va avoir des témoignages de René Funk plus ambigus où il explique sa peine d'avoir abattu un autre aviateur.
Mais Roland Garros, lui, signalons-le, dans ses carnets de guerre qui ont été publiés, n'emploie jamais le mot Boche, il emploie le mot allemand, et il met souvent le mot allemand avec un A majuscule. Alors, comment est-ce qu'on peut attendre de gens qu'on traite de Boche et qu'on se réjouit de tuer, qui vous rendent les honneurs militaires? Pourtant, on évoque l'étrange camaraderie qui aurait lié, parce que c'est pas le mot camaraderie qui convient, mais celui de chevalerie, les aviateurs des deux bords.
Oui, il y a cette idée très vite que se met en place un esprit aviateur très particulier, très singulier par rapport aux autres combattants, qui va impliquer, puisque nous sommes entre chevaliers, qui théoriquement nous affrontons en duel, que l'on applique aussi certains codes de cette chevalerie, une éthique tout à fait particulière, qui implique évidemment le respect de l'adversaire. Et cette idée des chevaliers du ciel va avoir des conséquences dans l'après-guerre, puisque certains de ces aviateurs vont se rencontrer sur les terrains d'aviation ou dans les cercles aéronautiques et entretenir des relations nouvelles.
Et des fonds qu'avec Göring.
Exactement, ou plus fortement encore avec Ernst Udet, qui va devenir chef de la Luftwaffe. Donc des Français et des Allemands qui se rencontrent, et une idée qui d'ailleurs est si vive d'une fraternité des ailes que Jean Renoir dans La Grande Illusion, par exemple, fait tout à fait s'entretenir les deux aviateurs allemands.
Il n'y a pas André Luguet, l'acteur, dans La Grande Illusion, mais vous pouvez me raconter l'histoire du gant d'André Luguet, on trouve ça dans les archives orales des aviateurs de la Grande Guerre qui ont été recueillis par le ministère de la Défense.
Oui, alors effectivement, ça donne place à des histoires assez savoureuses d'un gant qui est tombé dans du côté français des lignes.
Un gant unique.
Un gant unique.
Mais un beau gant.
Un beau gant.
Un gant noir, en pécari, vous voyez.
Qui intrigue du coup André Luguet, qui alors a une position d'officier. Et un second gant va être jeté par un avion qui passe à nouveau sur ses lignes ennemies, lesté avec une carte de visite. Et donc, André Luguet...
La carte de visite dit baron machin, parce que c'est un baron von quelque chose.
Évidemment.
Et vous aurez sans doute besoin du deuxième gant. Et alors, André Luguet reçoit le deuxième gant. Et alors, il le met.
Et il reprend son avion pour passer de l'autre côté des lignes... du côté allemand, et envoyer ses remerciements, avec lui aussi sa carte de visite.
C'est beau comme les affaires de fraternité de fantassins, à tel point qu'on a du mal à y croire. Mmh. Et au lendemain de la première guerre. Allez, dernier exemple, issu du temps des As. Nous sommes en 1919 ou en 1920, et le temps est venu de la reconversion pour les aviateurs. Vous entendrez le nom d'un certain René Binck, c'est peut-être votre René Funk.
Allô ? Attendez, ne quittez pas. Hé, Julien ! Tu parles un peu anglais?
Un peu, oui.
Tiens.
Allô? Yes, I speak a little. I listen to you, sir. Eh, les gars, ça intéresse quelqu'un? Il y a un anglais qui cherche un pilote pour le ramener à Londres.
Combien il paye?
1000 balles.
Il a le zinc?
Do you have the plane? Non.
Alors, ce sera 2000.
Sorry, 2000, sir. Yes, but his name is Bink. René Bink, B-I-N-N-C-K. Pour toi, il dit qu'il ira jusqu'à 3000 si tu acceptes de bouffer avec lui.
C'est d'accord.
Alors, la reconversion, ça n'a pas été facile pour beaucoup d'entre eux.
Alors, ça dépend lesquels. Alors, effectivement, les As qui ont eu une grande notoriété trouvent assez facilement des emplois. On a René Fonck devient député. D'autres As également.
Ah oui, il ne fait pas l'avion taxi, lui. Et il ne se produit pas pour des repas décoratifs.
Alors, pas encore.
F.O.N.C.K, c'est le nom qu'il n'a pas besoin d'apprendre aux Vosgiens. Qui vont l'élire député.
Effectivement, hein, il fait campagne sans même prononcer un seul discours, puisque son nom, son aura seul suffit à le faire élire. En revanche, beaucoup d'aviateurs vont trouver une reconversion soit dans les métiers qu'ils exerçaient avant, assez logiquement, mais beaucoup aussi dans l'aviation civile, qui connaît alors ses premiers développements. Et également, on retrouve aussi au début des années 20, beaucoup d'aviateurs qui meurent dans des meetings aéronautiques ou lors d'essais, puisque l'aviation reste encore à ses balbutiements et c'est encore un sport qui a perdu son innocence, mais qui reste en tous les cas très dangereux.
Dans le temps des As, le feuilleton de 82, on évoque les cirques aériens qui auraient été montés par des Américains cupides, évidemment, qui voulaient utiliser les aviateurs comme les Américains avaient utilisé Lola Montes au 19e siècle. Ça existait, ça, les cirques aériens?
Alors, plus simplement, on a aussi ça en France, les meetings aériens, où l'on va faire des démonstrations aériennes pour un prix. Oui, ça a existé, pas seulement aux États-Unis, mais en France, au début des années 20. Et ça retrouve même une certaine vigueur au début des années 30.
Alors, Guilbert a été préservé de toutes les compromissions. C'est le Saint-Just de l'aviation. Il est mort jeune et c'est pour ça qu'il est resté un héros. Et plus les années 20 et les années 30 ont passé, plus son rôle s'est amplifié. Il a été aussi utilisé par Vichy. René Fonck, député, élu en 19, battu en 24, et qui se livre à toutes sortes d'entreprises industrielles avec plus ou moins de succès. Lui, Vichy, n'a pas eu besoin de s'en servir, comme de Guynemer. Il a servi Vichy.
Voilà, il fait partie de ces gens qui suivent le maréchal Pétain pendant la guerre, dès les débuts de la guerre, et entrent dans son cabinet privé, dans son conseil privé, pour servir de messager officieux entre le maréchal Pétain et son ami Hermann Göring, parfois via l'intermédiaire d'Ernst Udet. Donc effectivement, les relations qu'il a nouées après la guerre avec ces pilotes qu'il affrontait auparavant vont lui permettre d'avoir un rôle dans le régime de Vichy. Enfin, il se fait rapidement écarter, puisque à la mi-42, il est évincé par Pétain. En raison de plusieurs affaires.
Il a des difficultés à la libération, et voici une des raisons pour lesquelles son nom, sauf à Gérard May, est moins connu que celui de Guynemer. Tout de même, il y a un rapport, pour finir sur une question politique, entre le mythe de l'aviateur et la droite nationaliste.
Alors, il y a des liens forts entre aviation, esprit aviateur et effectivement cette droite. Déjà par la composition sociale de ses représentants, on est effectivement dans les descendants de la noblesse, dans une bourgeoisie également assez empreinte de romantisme, et cela va se traduire également par des engagements à droite. Mais c'est pas seulement valable pour ces pilotes de la Première Guerre, mais plus généralement pour les pilotes, et on a tous en tête Mermoz et les Croix de Feu, évidemment, qui vont permettre d'exalter cet esprit français.
Enfin, tous en tête, cet aspect de Mermoz n'est pas toujours très connu. Merci à vous, Damien Accoulon.
Merci.
L'émission a été préparée par Franck Olivard et Frédéric Martin, qui ont plus la passion de l'avion encore que vous. La réalisation, Audrey Ripouille. À la technique, Léo Prangère.